Mana Ono, salam. Je suis Simbak et vous écoutez actuellement le podcast Malabar. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter Maïe Rami Prod, qui a monté ce nouvel épisode. Entrepreneur basé en France, il est disponible pour vous accompagner dans tous vos projets vidéo et photo. Retrouvez ses contacts dans le lien de l'épisode. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la veine de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Alors pour suivre toute l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur malabar.fr ou à suivre notre Instagram. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec mon invité du jour. Ma nouvelle invitée aujourd'hui s'appelle Farelia Taï. On est avec une invitée qui va nous faire voyager. La douceur de sa voix, le mot doux qu'elle emploie et surtout l'activité dans laquelle elle s'est lancée nous feront voyager ensemble à Madagascar. Le parcours de Farelia a été digne d'un parcours rêvé pour tous les parents. Maîtrise en droit, expérience au sein de grandes organisations internationales, offre d'emploi partout dans le monde, Farelia a vraiment de belles carrières. Pourtant, malgré la réussite et la reconnaissance qu'on lui fait, Farelia sent qu'il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose, elle va le trouver en fondant Home Sweet Home. Dans cet épisode, on abordera son parcours, ses expériences, son attache à Madagascar, sa volonté de vouloir s'y installer et faire de sa passion son métier. Un conseil, écoutez cet épisode en fermant les yeux ou en vous détendant, parce que Farelia va certainement vous donner envie de vous envoler avec elle. Bonne écoute.
Bonjour Farelia. Mais écoute, je suis très contente d'être là aujourd'hui avec toi. Je t'avoue que je t'ai abordé via LinkedIn parce que j'avais lu ton profil qui m'avait beaucoup intéressée. Je ne suis pas une grande pratiqueuse de yoga, mais j'aime bien ça quand même. Et donc, je voulais un peu parler de ton parcours. Donc, je te laisse d'abord te présenter aux auditeurs, donc nous dire où est-ce que tu habites aujourd'hui, quelle entreprise tu gères et tout ce que tu veux dire pour te présenter.
Ok, excellent. Merci beaucoup pour l'occasion de partager avec toi et avec tes auditeurs. Alors, je m'appelle Farelia Taïne. Taïne qui peut être un prénom et un nom, et qui peut être un prénom de garçon et de fille. Donc, j'aime beaucoup, on m'appelle de parler d'eux d'ailleurs, même si c'est mon nom de famille. Donc, je suis en ce moment et depuis maintenant un peu plus de 3 mois à Sidé, dans le petit village d'Amabazala, qui est un petit village de pêcheurs assez pittoresque, qui est connu par la plupart des gens en Sidé, parce qu'on vient y faire des vœux. C'est un des nombreux lieux sacrés de Sidé. Ici, on a une roche, jeune fille, en bateau, Zavar, littéralement, où les gens viennent faire des vœux. Et donc, l'atmosphère m'a plu, parce que c'est à la fois dans Sidé, avec tout ce que ça a de festif, et à la fois, ça a tout ce calme, et c'est, disons, cette atmosphère spirituelle qui correspond bien à un projet d'une maison d'hôte qui fait du yoga et de la méditation.
D'accord.
Alors, je pense, oui, vas-y.
Non, vas-y, je t'en prie.
Non, je voulais, qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, plus sur la présentation. Donc, à la base, je suis juriste, j'ai travaillé longtemps pour les Nations Unies, je suis malgache, j'ai vécu beaucoup à l'étranger, mais j'ai toujours une attache très forte au pays. Et donc, j'avais vraiment envie d'y revenir pour faire quelque chose qui me plaise et qui fasse du sens pour moi et pour les gens autour de moi.
D'accord. Et tu as grandi où? Que ce soit, juste pour situer, de quel âge à quel âge, où est-ce que tu es née?
Alors, je suis née à Maranda. Mes parents travaillaient à l'époque, ils étaient tous les deux fonctionnaires. Et donc, même si l'un vient d'Antuluar et l'autre de Port-Dauphin, on était à Maranda au moment de ma naissance, parce qu'on s'est retrouvés à Tana. Et j'ai fêté mon 3e anniversaire jusqu'à mon 23e anniversaire en Belgique, où ma maman travaillait pour l'ambassade. Donc, je suis restée très, très longtemps à l'étranger, mais avec des retours annuels, biannuels à Madagascar pour les vacances.
D'accord. Et parlons un peu de la Belgique. Est-ce que c'est un pays que tu as aimé? Quels sont, tu vois, on dit toujours que dans l'enfance, quand on grandit à Madagascar, on a des valeurs communes. Par exemple, le sens de la famille, vraiment cette cohésion familiale. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as retrouvées aussi en Belgique?
Je m'en souviens pas beaucoup parce que j'étais vraiment très petite quand on est arrivée en Europe, mais je pense que j'ai eu un grand choc quand même d'avoir beaucoup moins de monde, d'être dans une société beaucoup plus individualiste et avoir moins de membres de la famille parce que dans ma famille, on est très, très présents les uns pour les autres et je pense qu'on a rarement une journée où il n'y a pas une tante, un oncle, un cousin, un arrière-cousin qui passe. Donc, clairement, en Europe et en Belgique en particulier, les gens se voient moins, c'est plus codifié, on va se rencontrer en famille le samedi ou le dimanche. Mais j'aime beaucoup la Belgique parce que ça m'a donné beaucoup d'opportunités déjà de visiter toute l'Europe. Les Belges ont une culture assez présente. Au niveau des arts, j'ai beaucoup aimé les choses alternatives qu'on peut y trouver, en plus de tout ce qui est très classique. Je suis une férue de danse, d'art classique, et la Belgique et Bruxelles est un très très bon lieu pour ça. Donc je me suis beaucoup plu là-bas, c'est là où j'ai grandi, donc c'est là où il y a mes amis d'enfance et mes petites habitudes. Mais on vivait à la malgache quand même quelque part, c'est-à-dire que la maison était toujours ouverte pour les étudiants malgaches qui étaient en Belgique. On mangeait du riz à tous les repas. Quand on y arrivait, on buvait quand même du rin de poule, du rin de lapin, et on parlait malgache à la maison.
D'accord, parfait. Mais c'est bien, mais t'as quand même, malgré la distance, t'as quand même gardé cette proximité avec la culture malgache, et en plus, t'allais deux fois par an à Madagascar.
Oui, c'était une chance de pouvoir rentrer deux fois par an à Madagascar et mes parents se sont fait un honneur de m'envoyer toujours dans la brousse, donc là où la famille ne parle pas français et vit de manière très très simple pour que je puisse être à l'aise dans les deux. Donc manger à Singer sur un site devait être aussi agréable pour moi que de manger à table.
D'accord. Et en voyageant comme ça régulièrement jusqu'à tes 23 ans à Madagascar, avec quelle vision du pays?
Je pense que j'avais la vision que j'ai encore, une vision optimiste, enthousiaste, mais elle était un peu plus rêvée. Parce que quand on vient pendant les vacances, c'est la fête, surtout jusqu'à 23 ans. Donc, enfant, c'est la plage, les jeux à la plage, les balades avec les cousins, les cousines, le beau temps, tout ce que j'avais pas spécialement en Belgique, donc un grand soleil et une belle plage. Puis adolescente, c'était sympa aussi, c'était les sorties. Et donc j'avais une vision, disons, un peu poétique, un peu trop poétisée, un peu trop rêvée de ces périodes de vacances, parce que je ne voyais pas toujours le côté plus difficile du quotidien par rapport à ce qui se passe en Europe, par exemple.
D'accord. Et donc tu disais que jusqu'à 23 ans, tu étais en Belgique. Ensuite, ça s'est passé quoi à 23 ans?
J'ai fini mes études de droit, donc comme j'avais mon master en poche, je me suis dit que c'était à Madagascar que j'avais envie de vivre, donc je suis rentrée. Je me souviens, c'est quand même pas mal moqué de moi parce que j'avais des offres d'emploi assez intéressantes comme juriste en Europe, en Belgique et dans d'autres pays. Mais j'avais vraiment envie de rentrer chez moi, d'avoir cette sensation de chez soi. Là où moi je suis née, là où mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont nés, donc je suis juste rentrée avec rien d'autre que mon diplôme en poche.
D'accord. Et tu es rentrée, et là, est-ce que tu as vécu un choc parce que comme tu le disais tout à l'heure, tu avais tendance un peu à idéaliser le pays parce que tu voyais un peu le côté vacances, famille, enfin le bon côté des choses. Là, quand tu es rentrée, qu'est-ce que tu t'es dit deux, trois premiers mois?
Oui, l'arrivée était d'abord sympathique parce que c'est un peu festif. Et je me souviens que je suis rentrée pendant les fêtes, juste avant les fêtes de Noël. Là, ma petite bulle de la perfection malgache est restée intacte jusqu'à ce que je commence à chercher du travail. et à devoir aller dans les admins parce que j'avais pas de, il y avait plein de choses que j'avais pas. J'avais pas de carte d'identité nationale. J'étais pas inscrite dans un FUCTAM. Je veux faire pas mal de papiers aussi. Et l'équivalence aussi de diplôme. Et je me suis rendu compte que tout était encore plus compliqué qu'en Europe. Moi, j'aime pas l'administration. C'est quelque chose qui m'a jamais beaucoup enthousiasmée. Mais c'était encore plus compliqué à Madagascar parce que je ne comprenais pas toujours bien la règle du jeu aussi. Parce que parfois, je pense qu'on attendait de moi un bakchich ou quelque chose. Et c'est même pas que je voulais pas. À la base, je ne veux jamais donner ce genre de choses, mais je ne comprenais même pas ce que les gens attendaient de moi. Donc, je revenais le lendemain. Oui, revenez demain. Je revenais comme ça encore et encore. Et je me suis dit, oulala, pourquoi est-ce que je suis ? Et c'est là aussi que je me suis rendu compte qu'un pan de ma famille avait des appellations assez difficiles. Ce qui pour moi était difficile, donc pas avoir l'eau chaude, pas avoir de plaque électrique, enfin, pas avoir de voiture. Et déjà, ça, je trouvais que c'était des conditions difficiles. Et puis, en descendant encore en ouvrant encore plus le réseau amical et familial, j'ai vu que certains avaient encore bien moins que ça. Les Matsakaram, hein, donc on doit aller à une pluie pour chercher de l'eau ou aller à la République. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de souffrance qui m'avait échappé durant ces vacances féeriques que j'ai eues pendant un an.
Et tu as envie de faire un pas en arrière, de retourner en Europe, ou ça t'a pas effleuré l'esprit?
Ça m'a pas effleuré l'esprit le moins du monde. Une fois que je suis arrivée à Madagascar, ça a été un peu compliqué, mais je me suis dit, oh non, on va s'adapter, on va regarder ce qu'on peut faire. Et donc, pour moi, c'était clair que j'allais rester. Que j'allais essayer de voir ce qui était adaptable chez moi et qu'est-ce que je voulais garder parce que c'était mes valeurs centrales. Donc par exemple, pour moi, il est toujours hors de question de faire un dessous de table pour que les choses aillent plus vite.
D'accord. Et ça, jusqu'à aujourd'hui.
Ça ne simplifie pas toujours la vie, mais je me sens bien avec mes valeurs, en harmonie.
D'accord. Et donc, tu as commencé à chercher du travail après toute la partie administrative que tu as pu finaliser, j'imagine.
Oui.
Est-ce que ça a été facile? Tu vois, tu disais tout à l'heure que en Europe, tu avais beaucoup d'offres d'emploi. Est-ce que là, c'était le cas aussi quand tu arrives à Madagascar d'être très demandé, d'avoir énormément d'options qui s'offrent à toi?
Comme mon réseau était assez limité aux années de fête et qu'il y avait mon âge, donc une vingtaine d'années, j'avais pas eu un réseau très avancé pour être demandé quelque part. Puis c'était en 2000, donc on n'utilisait pas encore beaucoup LinkedIn ou d'autres supports informatiques Internet pour se faire connaître. Donc, si je n'avais pas des offres immédiates, mais dès que j'arrivais à avoir une connexion, en général, parce que j'ai un bon diplôme avec mention, mon CV était intéressant pour les gens une fois qu'ils l'avaient en main. Donc, j'ai pas eu trop de mal à trouver d'abord des jobs dans lesquels je ne me suis pas spécialement plu. Donc, j'ai d'abord testé des jobs où j'ai fait les essais de un mois ou deux mois et je me suis retirée. J'ai travaillé un peu en cabinet aussi comme ça. Finalement, je suis restée en freelance dans les cabinets. Et après, ça a vraiment été une question de chance. Parce que la proximité entre le petit job que je faisais plus pour faire des rencontres amicales et créer mon réseau et l'Agence des Nations Unies pour le Développement était plus ou moins voisin. Et donc, par proximité géographique, j'ai été au courant de leur recherche d'une juriste top travailler sur les objectifs du millénaire pour le développement. Voilà, c'était ma chance, on les a dit.
Comment ça s'est passé, cette expérience? Qu'est-ce que tu as tiré comme apprentissage, comme tu disais là, par exemple, tu vois, le réseau, le côté humain, on dit toujours que c'est très important. Hormis ça, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience?
C'était assez étrange, en fait, parce que je me suis retrouvée, j'ai été recrutée assez rapidement, parce que c'était un poste de consultant, hein, donc les procédures sont moins longues que pour un fonctionnaire international avec un index, disons. Et le jour où on m'a recruté, le lendemain, je devais faire une présentation aux représentants, à tous les représentants des agences des Nations Unies à Madagascar. Je me suis retrouvée avec, voilà, ça, ce sont les objectifs du millénaire et tu vas aller les présenter devant tous les REP du PNUD, de l'UNCISA, de l'UNICEF. Il y avait aussi les institutions de Bretton Woods. Donc, on avait aussi le FMI, la Banque mondiale. Et donc, ça a été très intense. Donc, j'ai eu une formation accélérée pour me mettre à jour et tenir mon rôle. Mais j'ai beaucoup apprécié ça parce que j'étais dans mon domaine. Moi, j'avais appris comme spécialisation tout ce qui est relations internationales et protection internationale des droits de l'homme. Donc, c'était pas trop compliqué techniquement, mais ça a été un gros challenge de pouvoir parler, m'exprimer et former des gens qui avaient genre 30 ans de plus que moi et 30 ans d'expérience en plus que moi. j'ai apprécié beaucoup. Ça a été difficile, mais vraiment très enrichissant.
Et cette expérience a duré combien de temps, environ?
Alors, la première expérience en tant que consultante, je pense que ça a duré un contrat 6 mois. Donc, j'ai fait des présentations, j'ai écrit pour le magazine du développement humain durable. Donc, c'était vraiment des petites tâches bien définies, donc vraiment un travail de consultant. Et quand le contrat de consultant était en train de prendre fin, et c'est là où le réseautage commence, on est venu me dire qu'il recherchait de nouveau une juriste pour travailler au LUCIDA, pour faire des réformes législatives, pour protéger les personnes vivant avec le VIH et leurs familles de toutes les discriminations. Et j'ai postulé et j'ai eu la chance d'avoir le poste. Je pense que j'ai aussi été considérée parce que j'avais déjà eu l'expérience en tant que consultante, donc j'ai été considérée pour ce poste que dans les Nations Unies ils appellent fixed term. Donc c'est un contrat à durée déterminée, mais c'est déjà un contrat plus long, plus stable. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée 3 ans au SIDA.
D'accord. Et le yoga, pendant tout ce temps-là, est-ce que ça faisait aussi partie de ta vie? Au quotidien, c'était une passion. Enfin, quelle place a occupé le yoga?
Alors, le yoga a toujours occupé une place importante dans ma vie depuis tout enfant. Alors, c'était un peu par hasard, par le hasard de l'écriture. Alors, pour les plus spirituels ou les plus religieux d'entre nous, on dirait c'est la grâce qui m'a mis en contact. Mais voilà, l'enfant, je suis tombée sur ce livre où on parlait de yoga, de méditation, parce que, oui, dans le yoga, on a tendance à regarder les postures, regarder les asanas comme étant l'essence du yoga. Mais le yoga a 8 branches et dedans, il y a la dévotion, dedans, il y a la méditation en tant que telle, il y a les asanas aussi. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. On retient ce qu'il y a de plus visuel en général, donc les pranayamas, les respirations et les asanas, les postures. Mais c'est tout un système complet. Donc, j'ai commencé surtout avec la phase méditative parce que c'était ce qui était accessible en ce temps-là pour un enfant. Le yoga n'est pas encore si à la mode que ça. Dans les années 90, c'était très difficile de trouver un cours pour un enfant. Donc, j'ai pratiqué depuis enfant et ça a continué avec des formes différentes, avec des traditions différentes. Et quand je suis rentrée à ma maison, évidemment, je n'avais pas un cours de yoga ou un centre de méditation ou un temple de méditation à proximité, mais j'ai continué à pratiquer seule à la maison. Donc, j'ai cherché d'abord pour voir s'il y avait des centres et je vous assure qu'en 2000-2001, il n'y en avait pas. On a la chance maintenant d'avoir des yogis à Madagascar, de qualité, qui donnent des cours, mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, comment je n'avais rien trouvé. Mais ma pratique quotidienne est restée, vraiment quotidienne. Et quand c'était possible, je continuais à partir en retraite de méditation à l'étranger une fois par an.
D'accord. Mais tu vois, quand je t'écoute, t'as quand même t'as un très, très beau parcours professionnel. Et je me dis que effectivement la plupart des gens aujourd'hui de nos générations cherchent, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, un sens en fait à ce qu'ils font. Et quand on t'écoute, on sent quand même que tu changeais la vie des gens, tu vois, quand tu dis des modifications au niveau législatif pour les familles ou les victimes du VIH, etc. Est-ce que tu te sentais accomplie dans ce que tu faisais au niveau au niveau personnel?
Donc, quand je travaillais pour les Nations Unies, j'attends jusqu'à partir de l'encontre, je me suis sentie très, très accomplie. Si, ça a vraiment, j'ai suis une année super où je faisais quelque chose à la fois qui était social, parce que c'est important pour moi, qui était intellectuel, parce que voilà, j'aime réfléchir, j'aime écrire, j'aime penser, et j'aime avoir de l'impact sur les gens. Et quoi qu'on dise, avec les défauts et les imperfections des Nations Unies, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites et impactant sur la vie des gens. Donc oui, je ne suis vraiment plus là-dedans, ça m'a vraiment passionnée, j'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie, et heureusement que le yoga, la méditation étaient là, justement c'était ma respiration, mon repos, ma manière de retrouver mon centre, parce que c'est aussi très très stressant, c'est comme tous les... Je pense que même si j'avais été en dehors des Nations Unies, on est vraiment dans une culture où le travail prend un espace très intense dans la vie des gens, et où la productivité, l'efficience est poussée à son paroxysme, de sorte qu'on n'arrive même plus à garder le cap et qu'on a des épidémies de burn-out dans le monde. C'est pas normal. Et ça, c'est dû au fait qu'on est trop pressuré et qu'on n'arrive plus à dire non parce que la pression ambiante est trop forte. Et c'est dans tous les domaines, et je pense que peut-être que ça ne se voit pas, mais autant que dans l'environnement, la coopération, les activités charitables, les ONG souffrent de la même pression.
Et toi, à quel moment tu t'es dit je vais me consacrer au yoga, je vais ouvrir aussi un centre à Madagascar. Enfin, toutes ces étapes-là sont arrivées quand et dans quel ordre?
Donc après le retour à Madagascar, donc il y a eu le premier petit contrat de consultante avec le PNUD, et puis après j'ai travaillé avec le NUSISA pour quelques années, 3 ans, et après j'ai été recrutée par l'UNICEF, je travaillais au niveau local, et ça m'a beaucoup aidé à découvrir Madagascar, parce que là, comme j'étais en recrutement local, ce qu'on appelle les national officers, je voyageais beaucoup, je faisais toutes les missions de terrain. Et c'était super parce que j'ai réussi à aller dans des recoins de Madagascar où j'aurais jamais réussi à aller par moi-même parce que là, on avait la cascade, les négos et tout ce qu'il faut. Ça m'a beaucoup plu. Et puis à un moment, on m'a proposé de travailler à l'étranger, ce que j'ai accepté aussi parce que c'était un nouveau challenge. J'ai vu, ça faisait 7-8 ans que j'étais à Madagascar et que ma passion du voyage était quand même morte toujours là. Donc, j'ai pu partir travailler au Sénégal, puis après le Sénégal, j'étais au Bénin, après le Bénin, j'étais au Congo RDC, donc la République démocratique du Congo, puis après au Burundi. Et là, je commençais à être un petit peu fatiguée, et je me suis dit, c'est le temps de faire un point. Voilà. Puis la quarantaine aussi, hein, c'est un moment où c'est bien de réfléchir à où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir d'autre dans sa vie. Et j'ai pris un sabbatique, j'ai fait ma pause carrière, disons, au moment où on ne pouvait pas faire mieux, puisque c'était en même temps que la pandémie et le confinement. Donc, moi, j'avais plus rien d'autre à faire que de réfléchir à mon avenir, puisque je ne pouvais même pas sortir de chez moi.
Et parlons un peu, justement, maintenant de Home Sweet Home, si je ne me trompe pas, c'est bien le nom de
l'esprit. Oui, c'est Home Sweet Home.
De l'esprit, de ce que tu as voulu fonder. Voilà, dans quelle optique tu as créé ce centre?
Ouais. Donc pendant le confinement, ça a quand même été long. Je ne pouvais non seulement pas aller voir la famille dans le sud. Donc j'étais confinée, moi, à Tana, dans mon petit appart au centre-ville. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir, à faire des vision boards, à méditer dessus. Ouais, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que ce n'était pas très clair que ce serait un centre de yoga. Je savais que j'avais envie de faire quelque chose de différent, d'un niveau un peu plus micro. J'avais envie que ce soit plus serein, moins de stress et d'être mon propre patron. Je savais que j'avais envie de faire quelque chose, de continuer de faire de l'impact pour les gens autour de moi. Et voilà, donc je faisais mon petit brainstorming interne et je cherchais aussi le lieu où faire, où est-ce que je vais m'installer. Et j'avais du temps. J'avais du temps puisque j'étais, comme beaucoup de monde, confinée. Et les deux options que j'avais en tête, c'était soit d'ouvrir un centre, et c'est là où je me suis dit, un centre, ça va être parfait pour moi parce que je vais pouvoir pratiquer tous les jours de manière aussi intensive que j'ai envie. Mais chez moi, pour Dauphin, on a quand même une route assez compliquée et pas beaucoup d'avions venant de l'extérieur. Et je me suis dit, comme j'ai cette petite tendance à aimer voyager et aimer être en contact avec l'étranger, parce que c'est très nourrissant aussi d'avoir cette double culture. Toi, sans doute, le fait d'être en Europe aussi, ça doit te nourrir en termes d'intérêts. Et donc, j'aime beaucoup ce contact, ce petit choc, justement, parce que c'est par la rencontre que quelque chose de neuf peut s'éveiller. Et donc, il restait comme ville où il y a un vol direct ou des vols directs venant de l'étranger, restait nos idées. Et je me suis dit, voilà, ce sera donc nos idées. Dès que le confinement a été terminé, j'ai commencé à faire des visites, j'ai commencé à chercher. Et j'ai eu un coup de foudre pour Bazavar et pour l'Amazon qui était déjà là. Et en fait, le projet s'est créé comme ça, de 2000-2001, au feeling. Quand je suis arrivée ici, je me disais un centre de yoga, ah non, peut-être une maison d'hôte, peut-être une maison d'hôte, et un centre de yoga, peut-être un centre de yoga, et aussi un centre de formation. Et c'est dans l'action, c'est dans le quotidien, en fait, que se crée le projet, avec les valeurs clés qui sont claires et nettes, celles-là, que ça doit être un lieu qui soit éthique, solidaire, qui soit aussi efficace et efficient, hein, et qui fasse des bénéfices. Parce que s'il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas de retombées positives non plus pour les personnes qui vivent en Bazavar. Ça, c'est certain. Je voulais que ce soit le plus écolo possible aussi, même si ce n'est pas encore parfait. Donc, les valeurs sont constantes. Et par contre, la formation de l'endroit est un peu organique. Comme je me suis rendu compte qu'il y avait deux bungalows, un qui est individuel et l'autre avec trois chiens, je me suis dit, ah bah oui, ça pourrait être tout à fait une maison d'hôte, pourquoi pas. Et ça m'a de fil en aiguille, ben oui, mais comme j'ai des chambres d'hôtes, je ne suis pas obligée de faire payer le yoga. Les gens peuvent juste louer, acheter des musées sur le site et ils auront du yoga, de la méditation et du coaching gratuitement. Et moi, ça me parle aussi au niveau des valeurs de dire que je ne vais pas faire payer quelque chose qui pour moi est un cadeau que moi j'ai reçu. Alors, je ne suis pas du tout contre ceux qui le font payer, mais pour moi, je suis très confortable avec l'idée de ne pas faire payer le yoga, mais de faire payer plutôt le logement. Donc, voilà, ça s'est construit petit à petit avec ce qui est disponible autour de moi et autour des valeurs clés qui sont les miennes.
D'accord.
Je ne sais pas quand je vais faire de la
question. Oui, tout à fait. Mais là, tu vois, j'ai envie de m'imaginer dans ton village, si tu peux nous faire une petite description. De par exemple la température actuelle, ce qui t'entoure, quel type de paysage.
Oui, volontiers. Alors, si vous avez vu l'aéroport déjà, c'est pas loin, ça va prendre une quinzaine, une vingtaine de minutes et vous allez être directement dans la forêt. Dès que vous quittez l'aéroport, vous rentrez dans cette petite route un peu sinueuse mais qui est bitumée. Et autour de vous, il n'y a que du vert. Et si c'est de jour, vous pouvez déjà voir la mer. Vous allez entendre les grillons, vous allez entendre les maquis qui font pas mal de bruit et surtout, vous allez être enivré totalement par l'odeur d'Ilan-Ilan sur toute la route. Et puis, vous arriverez à ce petit rond-point où il y a une sculpture avec quatre femmes qui regardent chacune dans une des directions, le sud, le nord, l'est, l'ouest. Et quand vous avez fini le rond-point, vous remontez et vous arrivez dans Homsitoum, qui est juste à flanc, en lisière de la forêt de Loukoubé. Donc là, sur ma bouche, il y a la forêt de Loukoubé. Dans mon dos, il y a la baie d'Ambatababab, on voit la mer. Alors, oui, elle est haute pour le moment, la marée est haute, donc on la voit très très bien de chez moi. Sur ma terrasse, il y a la piscine qui ne bouge pas parce qu'il n'y a absolument pas de vent. Il fait 30 degrés en ce moment. Il y a plein de fleurs, plein de verdure autour de moi. Ça sent l'Ilan-Ilan et ça sent aussi le jasmin parce qu'il y a beaucoup de jasmin dans le jardin.
Là, tu vois, ça me donne envie d'y aller quand tu me décris. En tout cas, ça a l'air très agréable. Il y avait un autre point, Paria, que je trouve important d'aborder quand je parle avec des entrepreneurs ou des fondateurs d'entreprises, c'est parler de l'humain, en fait, parce que finalement, personne ne peut fonder une entreprise et travailler vraiment tout seul. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu travailles avec Déjà, est-ce que tu as du personnel? Est-ce que c'est des locaux? Quelle était ta vision par rapport à l'humain quand tu as fondé Home Sweet Home?
Pour pouvoir situer, donc moi, j'ai réfléchi sur le projet et je l'ai commencé à incuber les idées jusque 2001. Donc, c'est vraiment très récent. J'ai trouvé le site ici, c'était au mois d'août. Et toute la paperasse d'achat s'est faite au mois de novembre. Donc, ça fait vraiment pas longtemps que je suis là. J'ai eu de la chance d'avoir du personnel déjà disponible pour la maison. Les anciens propriétaires ici louaient leurs bungalows, mais c'était vraiment des locations de vacances, plutôt à long terme. Donc, il y avait déjà du personnel ici. Pour commencer, je me suis dit, on va faire le plus simple possible. Alors, je trouve que l'arsenal législatif pour les entrepreneurs est encore très, très traditionnel à Madagascar. En Europe, maintenant, on peut ouvrir des entreprises à vocation sociale. On a pas mal de possibilités. Alors qu'ici, on est vraiment dans le traditionnel à titre individuel. La société à responsabilité limitée mais unipersonnelle et puis la grosse entreprise. Donc, on n'a pas beaucoup de choix. Donc, pour l'instant, c'est une entreprise personnelle, à titre personnel. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Le personnel était déjà là. Donc, on n'est pas beaucoup. On a en alternance des gardiens de jour qui font aussi le jardin, qui s'occupent de la piscine, le gardien de nuit. Mais en fait, ils sont trois pour ces deux tâches-là, parce que c'est très important pour moi que le droit du travail et juste l'humanité des gens soient respectés. Donc, on sont trois pour que chacun puisse avoir un week-end, pour que chacun ait sa soirée de repos, pour que celui qui travaille de nuit puisse quand même dormir quelques jours par semaine, de nuit, pendant la journée. Donc, on a trois personnes en rotation pour le gardiennage et l'entretien externe et la femme de ménage qui nous aide à l'intérieur de la maison et qui a aussi ses recours hebdomadaires. Ça n'a pas été compliqué de les trouver parce qu'ils étaient déjà là. Surtout, ce sont des gens du village qui sont nés dans ce village, qui ont grandi dans ce village. Pas que j'ai je commence à faire une discrimination par rapport à ça, mais c'est tellement plus confortable pour le personnel. Ça leur prend 2 minutes pour rentrer dans leur maison. Pour moi, c'est très confortable aussi parce que si j'ai oublié quelque chose ou que je dois dire quelque chose à la femme de ménage, elle habite à 200 mètres de chez moi, elle a sa maison qui est là. Un des gardiens qui n'a pas de maison, on lui a fait une petite case, il a sa case sur un petit terrain adjacent à ma maison. Donc, tout le monde peut venir à pied, rentrer chez lui, rentrer déjeuner tranquillement chez soi. Et c'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir des gens qui sont locaux. Parce qu'après, en fonction de l'intérêt qu'on a, des capacités qu'on a, on n'a pas spécialement envie de travailler dans le village où on est né. Mais voilà, moi, je suis née à Mironda, je travaille maintenant en Banzava, oui, c'est très bien, on est tous bagages, mais pour la facilité, le confort du personnel, je trouve que c'est bien.
D'accord. Et comment tu te sens aujourd'hui, Parilia? Est-ce que tu es heureuse? Comment tu vois le futur?
Mon quotidien est super parce que je fais ce que j'aime faire. Donc, j'ai du temps, j'ai de l'espace pour faire de la méditation, pour faire mon yoga de posture, pour faire du qigong, pour peindre, pour danser, pour aussi parler aux gens. Parce que quand on a un travail comme le mien dans le passé qui fait 8, 18, voire 19, voire 21, on perd quand même un peu en qualité de vie sociale et personnelle. Donc, je retrouve ça ici, ça me plaît. Déjà, mon quotidien est très agréable. Pour l'avenir du lieu, on a ouvert seulement il y a une dizaine de jours. Donc, ça va prendre du temps pour se faire connaître, pour faire son petit chemin, pour être connu, pour attirer de la clientèle. Mais je suis très, très confiante. Je suis très confiante parce que c'est une île magnifique, le CZ, et qui mérite d'être une île de bien-être, de yoga, au même titre que Koh Phangan ou que Bali, ou les îles grecques, où il y a beaucoup de centres de yoga et de méditation, parce qu'en fait, il y a une énergie particulière en bord de mer et sur les petites îles. qui fonctionne très bien avec le travail énergétique qu'on peut faire en yoga asana et en méditation. Donc, j'espère vraiment que ça va porter ses fruits ici. Et en plus, je ne suis pas toute seule. Il y a déjà une yogini qui donne des cours dans les hôtels, qui a sa petite clientèle locale. Je sais qu'il y a un spa où on fait aussi du yoga pas loin. Maintenant, il y a Amsis Home qui s'ajoute à ces options-là. Chacun a sa particularité. Ce que j'espère vraiment, c'est que au lieu d'être en concurrence, tous ces types de tourisme et tous ces types de yoga et tous ces types de centres vont juste ouvrir la voie à plus de clients encore vers nos cibles. Donc, pas seulement ceux qui veulent faire la fête sur la plage, mais aussi ceux qui veulent se ressourcer, ceux qui veulent rencontrer la manipulation de manière profonde. Et ceux qui veulent entrer en contact avec la spiritualité malgache, parce que pour ceux qui sont intéressés, d'ici une dizaine de jours, je ferai un petit post sur Facebook pour montrer qu'on a des techniques traditionnelles qui sont tout à fait équivalentes à des pratiques yogiques. Et c'est ça aussi qui m'intéresse, de montrer que voilà, on peut apprendre de l'extérieur des techniques et on peut aussi voir qu'est-ce qu'on a déjà là et comme ça on a le choix. Qu'est-ce qui nous parle et qu'est-ce qui nous plaît le plus.
D'accord. Pour finir, Farilia, j'avais trois petites questions pour toi. Je la pose à tous mes invités, c'est pour avoir un peu une vision de Madagascar et surtout ta vision à toi de Madagascar. La première, c'est qu'est-ce qui te retient aujourd'hui à Madagascar ?
D'une manière très, très pragmatique et concrète, on peut dire que Madagascar reste quand même très attractif parce que c'est un pays d'opportunités. Tout le continent africain est un continent d'opportunités. Population jeune, énormément de richesses naturelles, de richesses culturelles inexploitées. Donc, de manière très, très pragmatique, je veux dire, c'est une terre d'opportunités comme on n'en trouve plus tellement dans des pays occidentaux. Il y a tellement à faire, tellement de choses possibles à faire. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a la tâche du cœur, parce qu'il n'y a rien à faire, loin. Le placenta qui m'a porté est enterré à Madagascar, et c'est là où il y a ma racine principale. J'ai beaucoup d'autres racines dans d'autres cultures, et dont celle en Belgique, dont la culture indienne, à cause du yoga, tibétaine, parce que je fais des méditations tibétaines. Mais mon premier berceau, ma première maison, c'est Madagascar, et c'est là où j'ai envie d'être avec le cœur. Et troisièmement, c'est là où je peux faire le plus d'impact. Parce que si je dis qu'il y a de plus en plus de yogis, de profs de yoga qui sont compétents et qui sont à Madagascar en général, mais aussi ici à Nosy Be, on reste quand même une minorité. Et donc, je pense que je peux apporter quelque chose de neuf et qui puisse faire du bien. Et puis, je pense que tous les Malgaches qui ont de l'énergie, un tout petit peu de moyens pour pouvoir se lancer dans un projet, même un micro-projet, ça vaut la peine de venir à Madagascar. Venez tester vos idées ici. Venez tester vos idées. Venez faire de l'impact local avec vos citoyens.
D'accord. C'est un beau message. C'est un beau message. La deuxième question, c'est quels sont tes conseils pour avoir une vie épanouie à Madagascar?
Alors, deux conseils. Je répète. Je pense que les deux conseils qui sont d'apparence contradictoires. Alors, l'une, c'est s'adapter. D'adapter parce que ce sera sans doute plus lent si vous venez d'un pays occidental, vous avez grandi, vous avez l'habitude de vivre, ce sera sans doute plus lent, parfois un petit peu plus obscur, parce que les règles, en France, on peut tout trouver sur Internet, on peut imprimer sur ce formulaire et aller à la mairie, que tout soit réglé rapidement, ici ce ne sera pas toujours le cas. Donc, il faut s'adapter en termes de patience, il faut s'adapter en termes culturels aussi, parce que c'est toujours important aussi de dire bonjour, comment ça va, d'être à l'écoute de l'autre. Alors que je pense qu'on n'en veut pas vraiment de à New York que si on commande directement coffee please, sans avoir demandé comment va vos enfants et comment vous allez. Donc il faut s'adapter culturellement à la manière d'aborder les gens, une certaine lenteur, parfois une certaine complexité des procédures. Et se réadapter à la vie quotidienne, tout simplement aussi, qui est différente de ce qu'on peut trouver dans les pays occidentaux. Et j'ai dit que l'autre conseil est un contradictoire parce que c'est ne vous adapter pas trop Donc, s'adapter, si c'est au détriment des valeurs que vous portez, c'est non. Non, non, ce n'est pas une bonne idée de s'adapter en disant « Oui, mais ça ira plus vite si je donne un petit cadeau au président de FUSPAP » ou « Oh oui, mais c'est pas grave, hein, si je ne paye pas mes impôts, bon, allez, la bonne gagnera un peu plus d'argent si je ne la déclare pas à la CNAS, donc je ne vais pas la déclarer, je vais donner le surplus de cotisation en salaire. » Non, non, parce que là, au lieu d'amener quelque chose de neuf et d'amener de l'éthique, de la solidarité et du développement, on est comme happé par une espèce de vague de sous-développement constant et on fait marche arrière. Donc, adaptons-nous culturellement, adaptons-nous au rythme, un peu plus de novembre, un peu plus de zèle, quelque part, hein, un peu plus de souplesse, un peu plus de rondeur, mais pas trop. Gardons ce qu'il y a de bon dans les valeurs de la transparence, dans les valeurs de l'éthique, de la morale. C'est vraiment important aussi parce que sinon, on n'avancera pas. Et c'est avec de jeunes personnes qui ont eu ces bases-là, des choses assez carrées, qui peuvent les ramener ici et ramener plus d'efficacité et d'efficience à la manière de procéder à Madagascar. Je ne sais pas si c'est clair.
Si, c'est très clair.
Je me laisse parfois un peu emporter.
Non, mais on s'envole avec toi, il n'y a aucun problème. La dernière question, Farilia, c'était s'il y a quelque chose que tu veux partager, quelque chose qu'on n'a pas abordé ou un message que tu veux répéter.
Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, je pense que c'est important, surtout si, si tes auditeurs sont jeunes comme toi, de mettre les choses en place dans sa vie pour ne pas atrophier une partie. Donc, votre vie spirituelle, votre vie matérielle, professionnelle, votre vie familiale, votre vie amoureuse, relationnelle. Moi, je suis tombée dans la première partie, premier cycle de ma vie, de vraiment ouvrir, et je parle là vraiment de vulnérabilité, hein, de manière très, très ouverte, d'avoir vraiment mis beaucoup dans la phase et beaucoup dans des tensions, dans le développement professionnel et aussi spirituel. Parce que, comme je vous le disais, malgré du travail assez intense, j'arrivais à partir en retraite chaque année, ou des semaines, hein, pas deux jours, hein, de méditation, à méditer chaque jour, d'avoir des promotions presque à chaque poste. Donc, je travaillais bien, j'y mettais les moyens. Mais du coup, parfois, j'ai laissé tomber un peu plus les analyses, je me suis moins bien occupée de ma vie amoureuse et personnelle. Et je pense que c'est toujours dommage. Donc, pour être une personne entière, il faut pouvoir s'épanouir dans un maximum de secteurs de sa vie et pas laisser qui pense sa vie à profiter en se disant « je le ferai plus tard ». Oui, il faut commencer tout de suite à être ce personnage-là. Et parfois, on n'est pas au top dans tout en même temps, mais il faut continuer de nourrir chacune de ses parts de vous, chacun de ses secteurs de la vie. Voilà.
D'accord. Bah, merci beaucoup pour ce message, Farilia. Je mettrai dans les notes de l'épisode le site, le Facebook de Home Sweet Home. Et puis, je te souhaite une très bonne continuation et beaucoup de réussite.
Je te souhaite de même que ça se passe super bien et beaucoup d'auditeurs et beaucoup d'informations transmises. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec toi.
Merci, Farilia. À bientôt.
Ça y est, l'épisode est terminé et merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité de Malabar, n'hésitez pas à vous rendre sur le site malabar.fr ou sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Malabar est toujours à la recherche d'expériences insolites. Alors si vous connaissez quelqu'un ou si vous-même souhaitez partager votre histoire sur Malabar, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode de Malabar.